Merci beaucoup pour cette présentation. Bon, c'est une grande honneur de pouvoir vous présenter quelques réflexions au sujet de connaissance et action. Le titre de ma présentation, c'est le sceptique, le stoïque et le cynique, trois personnages philosophiques. La question de la philosophie est comment nous devons mener nos vies. Heureusement, la philosophie par elle-même ne peut pas répondre à ces questions, mais elle peut nous aider de comparer et d'évaluer des réponses et d'en trouver d'autres candidats. Dans ma présentation d'aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous de trois réponses particulièrement extrêmes, personnifiées en trois personnages philosophiques, la sceptique qui mène une vie sans croyance, la stoïque qui évite les émotions ou au moins les limite sérieusement par rapport à leur impact pratique, et la cynique qui refuse d'accepter de valeur du tout. Contre la possibilité même de ces personnages, l'argument a été avancé, déjà dans l'Antiquité, qu'un sceptique, un stoïque ou un cynique ne pourrait pas agir, que c'est la possibilité même d'être un acteur, d'être responsable de ses choix pratiques et libre dans l'exercice de ses pouvoirs causaux, que présuppose les croyances, les émotions et les valeurs. J'aimerais critiquer ces arguments en m'appuyant sur une notion plus minimaliste et aussi plus écuménique d'action, qui s'appliquerait par exemple aussi aux petits-enfants et aux animaux. Okay. Ma conclusion sera que, bien que possible, une vie sceptique, stoïque ou cynique est une vie mauvaise. En conclusion, j'aimerais montrer que ce fait, s'il était établi, ce qui ne sera pas aujourd'hui, évidemment, nous apporterait une leçon importante sur le caractère et le potentiel de la philosophie même. Commençons avec le sceptique. Le sceptique, c'est quelqu'un qui n'est pas impressionné par nos aspirations au savoir et qui pense que nous devrions y renoncer pour une de deux raisons possibles. Soit parce qu'elles sont toutes fausses et nous ne savons rien, ça c'est le scepticisme dit académique, ou parce que nos aspirations au savoir sont mal fondées et nous ne savons pas si nous savons quelque chose. Ça, c'est le scepticisme dit pyrrhonien. Les sceptiques académiques, parfois motivés par le dilemme d'Agrippe, que la justification de nos croyances est soit infinie, soit circulaire, soit est fondée sur quelque chose d'injustifié, les sceptiques académiques pensent que rien n'est certain et qu'il n'y a pas de preuve de quoi que ce soit. Les sceptiques pyrrhoniens, par contraste, ne pensent pas que nous n'avons pas assez de justifications, mais pensent que nous en avons trop. Parce qu'ils pensent que pour chaque assertion P, nous avons, ou au moins pourrions avoir, autant de raisons en faveur que de raisons contre, ils recommandent la suspension du jugement et l'abolition de toute croyance. Puisque cette recommandation est universelle, elle inclut les croyances concernant la justification même. Le scepticisme même est aboli comme un laxatif nous purge des contenus de nos estomacs et de lui-même inclus. Peut-être une dernière citation Sextus. La soi-dite équipollence des raisons pour les pyrrhoniens non seulement rend rationnelle la suspension du jugement, mais l'entraîne naturellement, créant ainsi ataraxia, un état de tranquillité de l'esprit, ce qui est leur version du bonheur, de l'eudaimonia que nous recherchons dans la vie. Pour Sextus, la suspension du jugement non seulement est compatible avec la recherche de la vérité, mais motivée par elle. C'est parce que nous valorisons la vérité que nous devrions être des sceptiques, c'est-à-dire des chercheurs. C'est la signification originale grecque de scepticisme, recherche. Le sceptique vit par des apparences, mais ne peut pas les accepter comme véridiques, parce qu'elles, dans le cas de l'équipollence, sont contradictoires et qu'il fait pas qu'il valorise la vérité. Vivre par les apparences sans les accepter est une attitude plus difficile et aussi plus intéressante que de restreindre simplement la portée de nos assertions. C'est une autre interprétation de la vie sans croyance qui a été donnée. Par contre, Sextus dit à plusieurs occurrences que le doute sceptique s'éteint à tout ce que le dogmatisme prend pour évident, soit parce qu'il le sait de manière non inférentielle, soit parce qu'il est, évident en soi. Comme les apparences ne sont pas sous notre contrôle, le sceptique se trouve, par rapport à toute évidence, dans la même situation où nous nous trouvons face à l'illusion dite de Müller-Lyer. Bon, ça c'est le deuxième. Passons aux stoïques. Et imaginons que je me retrouve dans un amphithéâtre romain face à un lion inclin de me manger. Alors là, il y a aussi une image. Comme je regarde le lion affamé, agressif et violent en face de moi, je note quelques caractéristiques de moi, du lion et de notre situation qu'entraînent en moi la croyance que le lion est dangereux à moi dans cette situation et la perception du lion comme dangereux. En même temps, je ressens peur du lion et peut-être aussi d'autres choses. Cette croyance ou cette peur, ou une combinaison des deux, m'incline à prendre la fuite. Ce qui, je prends la fuite et je crains le lion parce qu'il est dangereux. C'est ma recognition d'une valeur, le fait que je prends note du danger, qui est une valeur, qui justifie à la fois ma croyance, mon émotion, ma réaction affective et mon action qui s'ensuit. Okay. Il me semble, contrairement à une théorie d'émotion autrement très bien faite, défendue par mes collègues genevois, qu'il y a un espace conceptuel, un pas à faire entre la prise de note de la valeur et la peur elle-même. C'est le même type d'étape, de pas, qui existe entre la peur et l'action qui s'ensuit. Même si je n'aimerais pas identifier la peur avec l'inclination à la fuite ni à la prise de note du danger, je pense qu'elle est située entre les deux, étant une raison pour la première et une réaction à la deuxième. Parce que les émotions sont des réactions affectives que nous avons vis-à-vis à notre situation dans le monde, il est nécessaire, il me semble, de distinguer entre la prise de note de la valeur et l'émotion elle-même. Cette distinction rend possible une attitude stoïque par rapport à la valeur. Le stoïque, dans le sens de ce terme, il n'a pas d'émotion, même s'il prend note des valeurs, mais il manque d'y réagir affectivement. Sa prise de note du danger est froide, soi-disant. Il voit le lion et il prend ce qu'il voit comme une bonne raison de prendre la fuite, mais il n'exhibe pas les symptômes corporels de l'affectation de la peur. Alors, il aura un pulse qui n'est pas élevé, il n'aura pas plus de transpiration, etc. En soi, par ceci, sa fuite va peut-être même être plus rapide que celle de quelqu'un qui ressent la peur. Le stoïque a beaucoup de raisons philosophiques pour prendre cette distance par rapport aux valeurs qu'il rencontre dans sa vie. Historiquement, la justification la plus importante, c'était l'idée que la plupart de ces valeurs sont négatives et qu'il n'y a rien que le stoïque peut changer à ce fait. Alors, le déterminisme et un certain pessimisme par rapport au monde était instrumental dans la motivation de l'attitude stoïque. Notre troisième caractère, le cynique, est d'une certaine manière une radicalisation des deux autres. Alors le cynique, il ne reconnaît pas de valeur du tout. Il se limite non seulement aux apparences comme le sceptique, ni seulement aux enregistrements de la présence valeur, mais il renonce à tout désir. Il ne veut rien. Il ne veut rien dans le sens que vouloir quelque chose, désirer quelque chose, c'est de le construire par ce fait même, pas forcément conceptuellement, mais par ce fait même, ce qui est voulu ou désiré est désiré ou voulu comme quelque chose de bien. Ça, c'est la fameuse doctrine de la voile du bon, qui, d'après Aristote, constitue l'essence même de nos attitudes volitionnelles. Le cynique, pour peut-être des raisons pratiques ou peut-être juste par inclination, pense que notre vie est meilleure si nous ne voulons rien. Il a en sa faveur l'observation qu'une des choses qui nous rend malheureux, très souvent, est que nous ne pouvons pas réaliser ou avoir ce que nous voulons. Alors, une manière nous libérer de désirs insatisfaits, c'est de n'avoir pas désir du tout. Alors, contre tous ces trois, l'argument a été avancé qu'une action même est impossible. Par rapport au sceptique, qui est le cas le plus discuté, nous trouvons cet argument dans Hume. The Pyrrhonian must acknowledge, if he will acknowledge anything, that all human life must perish, were his principles universally and steadily to prevail. All discourse, all action would immediately cease, and men remain in a total lethargy till the necessities of nature, unsatisfied, put an end to their miserable existence. Nous trouvons le même argument dans Platon et dans beaucoup de discussions contemporaines sur le scepticisme. La réponse sexus se trouve dans les blablabla pyrrhoniennes. Et c'est la même que donne Descartes sous forme de sa morale provisoire. L'idée, c'est que le sceptique, il n'agit pas sur la base de ce qu'il croit être vrai, mais sur la base seulement de ce qui lui apparaît ou semble être vrai. Alors, il suit ses inclinations naturelles, il obéit aux coutumes locales, il boit le verre d'eau qui est devant lui quand il ressent la soif, mais pas parce qu'il pense que l'eau est buvable, plutôt parce qu'il est naturellement inclin de le boire, et il manque par contre la croyance contraire que le verre n'est pas buvable. Il me semble que nous avons besoin, en philosophie, pour d'autres raisons, une notion d'action qui est compatible avec ce que dit Sextus. Prenons un cas également un peu extrême, où nous sommes inclins de dire que quelqu'un exprime, d'une certaine manière, une croyance en réalisant une action. C'est le cas de la douane à l'aéroport, qui a deux portes, rien à déclarer et douane. Et alors quelqu'un qui prend le chemin vert, il déclare, en prenant ce chemin, qu'il n'a rien à déclarer. Il déclare ça d'une manière légalement importante. Alors si quelque chose qui doit être déclaré est trouvé chez lui, il peut être condamné pour une fausse déclaration, ce qui présuppose qu'une déclaration a été faite. Ce cas est un cas particulier, un cas spécial. Ce que nous expliquons normalement en termes de croyance est normalement quelque chose que nous pouvons expliquer en termes de quelque chose de plus faible qu'une croyance. Et je dirais que les inclinations et les apparences de ces que mentionne Sextus sont un cas comme ça. Le problème du stoïque vis-à-vis à l'action est un problème un tout petit peu différent. Comme nous l'avons dit, juste considérer en soi-même, le stoïque peut être même mieux qualifié à prendre l'action opportune dans une situation de danger. Ce que le stoïque ne peut pas, par contre, c'est d'agir en vue des émotions des autres. Cette thèse, cependant, présuppose deux assertions en partie empiriques. La première, c'est que le stoïque vit dans un monde non stoïque, qu'il n'est pas le seul à ne pas avoir des émotions, et qu'il doit comprendre pour un certain type d'action les émotions des autres. La deuxième présupposition est une présupposition parfois appelée sentimentaliste, c'est que je ne peux pas ressentir l'émotion d'empathie par rapport à la peur de quelqu'un d'autre si j'ai jamais ressenti la peur moi-même, ou peut-être même si je ne serais pas capable, au moins en principe, de ressentir cette peur-là que l'autre est en train de ressentir. Alors, si l'empathie présuppose de cette manière les émotions de premier ordre, alors c'est quelque chose que le stoïque ne peut pas avoir. Alors si l'empathie est nécessaire pour certains types d'actions, comme aider aux autres, être solidaire, etc., alors le stoïque ne peut pas agir de cette manière. Il me semble par contre que cette dernière présupposition est trop forte pour être défendue. Ce dont le stoïque a besoin, ce n'est pas l'émotion elle-même, mais l'enregistrement et la reconnaissance de la valeur. Si cette valeur en elle-même est quelque chose de particulier à la situation où, dans laquelle se trouve l'autre, le stoïque est qualifié de comprendre cette situation et d'agir en conséquence. Passons donc au troisième. Alors le problème est peut-être le plus prononcé par rapport au cynique. Le cynique, il ne peut pas désirer ni vouloir sous le veille, sous le voile du bon, et donc on pourrait penser qu'il ne peut pas agir. Il me semble que cette thèse, elle rend trop forte cette doctrine du voile du bon. Ce dont nous avons besoin pour désirer quelque chose, c'est pas la reconnaissance de quelque chose comme bon, mais c'est quelque chose, c'est la reconnaissance de quelque chose comme bon pour nous. Alors, ce qui est bon pour nous, c'est pas une valeur en soi, c'est un aspect de cette valeur, c'est une manière dont la valeur qui est le bien m'apparaît à moi dans une situation particulière. Quand je veux quelque chose qui est bon pour moi, je ne suis pas contraint de le considérer comme bon tout court. Il n'y a pas, pour changer un tout petit peu l'exemple, il n'y a pas de contradiction théorique dans la combinaison de deux attitudes. Je peux être moralement contre les voitures, avoir une vision du monde radicalement écologiste où je pense que c'est moralement faux d'avoir une voiture du tout, et en même temps, politiquement, être libéral et être assez libéral pour permettre aux autres d'avoir des voitures. Alors, ce que je permets aux autres de faire des choses que je pense sont moralement interdites, fait justement cette distinction entre ce qui est bon pour eux et ce qui est bon tout court. Concluons alors de manière provisoire que ces trois personnages sont possibles. À la fois philosophiquement, conceptuellement possible, métaphysiquement possible, mais normativement aussi, qu'il n'y a pas, dans le sens qu'il n'y a pas d'argument contraignant qui montre qu'on peut les blâmer pour quelque chose. Alors, dans un certain sens, les croyances, les émotions et les valeurs en général sont facultatifs. Qu'ils soient facultatifs ne veut pas dire du tout qu'on ne devrait pas les avoir. Et j'aimerais vous présenter quelques idées en deuxième temps pour montrer que nous devrions avoir des croyances, des émotions et des valeurs. Une attitude sceptique peut être un remède contre le dogmatisme, ce qui est l'acceptation inconditionnelle des vérités comme conclusivement établies. Un collègue de moi, Vincent Lam, le nouveau professeur FNS à Berne, par exemple, jouera un rôle sceptique positif en examinant l'évidence scientifique pour le changement du climat. Nous ne devrions pas être dogmatistes par rapport à ça, et c'est pour la raison que nous devrions pas prévenir, que nous devrions prévenir d'autres à exploiter les faiblesses épistémologiques des sciences du climat pour des buts politiques. Le sceptique a raison qu'il faut toujours continuer à chercher la vérité et ne jamais penser de l'avoir acquis pour du bien. Cependant, elle rate et elle néglige une autre forme sous laquelle la valeur de la vérité peut être réalisée dans notre vie, parce qu'elle ne fera jamais l'expérience d'avoir tort. Alors ce que manque le sceptique, c'est cette expérience d'avoir tort. L'expérience d'être forcé de changer d'avis, de réviser ses opinions dans la lumière de la vérité. Reconnaître d'avoir tort, être refuté et obligé de changer d'avis, c'est peut-être bien de garder ça en tête pour les questions d'après, cette expérience est quelque chose de bien, parce qu'elle nous permet de honorer, même de célébrer la valeur de la vérité de manière active, en faisant quelque chose. De la même manière, une attitude stoïque peut être un remède contre un certain type de la doctrine du politiquement correct. L'imposition aux autres de sentir, ou au moins de faire semblant de sentir, les émotions et les attitudes affectives que nous croyons justifiées. De juger les autres non seulement par leurs actions, leurs croyances et leurs intentions, mais également par leurs relations affectives entre le monde. Je pense qu'il n'y a pas, même pas pour les enfants, un droit à l'amour. Même s'il y a un droit au respect, au traitement équitable, aux ressources matérielles, etc. Ceux qui ne sont pas capables, ou pour d'autres raisons n'aiment pas, ils méritent notre pitié, mais nous ne devrions pas les blâmer pour leur déficience affective. Cette pitié, elle est bien justifiée. Dans un monde où pas tout le monde est stoïque, comme nous l'avons vu, un stoïque est très limité dans la compréhension des autres. Si ficher a raison et comprendre les autres est une précondition de se comprendre soi-même, ils sont même limités dans leur compréhension d'eux-mêmes. L'attitude ironiste du cynique, finalement, est la réaction appropriée à la démagoguerie, au démagogue et à la bêtise. Tandis que le menteur accepte mais désobéit à l'obligation de dire la vérité, le démagogue ne l'accepte pas. Tandis que l'idiot, le stupide, accepte l'obligation de penser la vérité, mais n'arrive pas à la réaliser, celui qui est bête le viole de son propre gré. Il dit n'importe quoi et raconte des conneries, du bullshit, dans le sens de Harry Frankfurt. Par rapport au discours bête, aujourd'hui nommé post-factuel, l'attitude ironique est justifiée. Nous ne pouvons pas imposer aux autres les règles d'un jeu qu'ils refusent expressément de jouer. Cependant, le but de l'éducation n'est pas limité à la transmission de valeurs précises. Nous devons également montrer à nos enfants ce que c'est d'avoir des valeurs du tout. Bien que l'attitude ironique par rapport au post-factuel est justifiée, il est toujours mauvais qu'ils n'ont pas eu d'éducation appropriée. Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ces observations? Si la vie sans croyance, sans émotion et même sans valeur est possible, philosophiquement et normativement, ceci nous montre que l'impact déontologique de toutes nos valeurs est dans le mode du bon, soi-disant, et non pas dans le mode de l'obligatoire. Nos valeurs ne nous prescrivent pas ce que nous devons faire, nous tirons par les cheveux, soi-disant, mais ils nous disent ce qui est bon à faire. Ce caractère supererogatif, en mon opinion, est ce qui rend leur présence une bonne chose en soi, parce qu'il augmente plutôt que restreint notre liberté. La possibilité conceptuelle et normative de la sceptique, la stoïque et de la cynique montre que nos valeurs sont dans un certain sens « up to us », dans le double sens qu'ils nous appartiennent et qu'il est à nous de les réaliser.